Moi, j'ai failli virer fou. En début d'année, j'ai commandé 13 livres. Je lisais tous les tweet threads de Doomers, man. Puis les.
Ah
J'étais
ben.
là. Nick Bostrom, mon.
Il y a du.
T'sais,
Il y
man,
a moyen
ça
de
peut
se
être
faire peur.
Si
Il y a
t'as un.
moyen de se faire peur.
Dude, si t'as un profil obsessif, compulsif, tu peux creuser longtemps, là. Tu peux binger, man,
Ah oui.
longtemps,
Ah oui.
là. Puis si t'as un profil rêveur aussi, tu peux rêver longtemps, tu sais.
Ben, moi, je suis toujours
Entre
dans
les
un
deux.
statut de balance entre les deux, là, de savoir toutes les possibilités qui sont offertes, puis de voir, waouh, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait.
Étourdissant, hein, des fois.
C'est étourdissant, puis là, de l'autre côté, ah, ouais, ça aussi, ça peut arriver. On est le road des samedis soirs, ne clenchant pas les souvenirs. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Les 101 coups, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier soupir.
What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur SaaS Passe, où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. Abonnez-vous et laissez-nous un review sur Spotify, Apple Podcasts ou votre plateforme préférée, ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Assurez-vous aussi que votre SaaS est listé sur saaspass.com, bouton mauve, ajoutez votre SaaS, il y a déjà au-dessus de 270 compagnies. Si vous cherchez un emploi ou un employé en SaaS au Québec, allez sur saaspass.com/emploi avec un S, notre job board. Le prochain event SaaSpass aura lieu à Montréal au Santec le jeudi 18 avril. Je vais jaser de développement produit, de diversification des revenus de services et plus encore avec Jean-Gabriel Philippe, cofondateur chez Chrono Innovation et Chronoscope. Les billets sont dispo sur Eventbrite, la bannière de notre site et en show notes. La première retraite privée pour fondateurs SaaSpass s'en vient tranquillement en avril. Si vous voulez soumettre votre candidature pour la prochaine, allez sur saaspass.com/retraite avec un S ou écrivez-nous sur LinkedIn ou à bonjourhi@saaspass.com. On vous enverra le formulaire et les détails. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Alexandre Dubé-Côté, analyste d'affaires et spécialiste d'intégration IA chez Baseline, une firme d'accompagnement en intelligence artificielle. C'est turbo cool d'avoir autant de temps de qualité avec un passionné qui baigne là-dedans, littéralement. On va vulgariser beaucoup de concepts, donc les Large Language Models, Retrieval Augmented Generation, RAG, Deep versus Machine Learning, Generative Design. On parle beaucoup des données aussi, donc la gouvernance, l'architecture, l'hygiène et les biais dans les données. On va expliquer aussi ce que Baseline font quand ils entrent dans un SaaS, comme par exemple la cartographie des processus, l'identification des opportunités en IA. Puis Alex, il me donne d'ailleurs un exemple assez malade d'un de leurs clients SaaS puis des vrais cas d'utilisation IA. Finalement, Alex, il me fait allumer sur quelques nouveaux horizons éthiques puis moraux dans la nouvelle ère du AI, puis ensuite on freestyle et sci-fi un peu. Ah, puis aussi, j'y pose la question ultime. Penses-tu que le futur va ressembler plus à Brave New World ou 1984? All right, on passe au show. Let's go! Alexandre, bienvenue sur Ça se passe.
Merci beaucoup.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va bien, je suis content de te voir en vrai.
Même chose.
Je demande tout le temps aux invités, là, je vais t'avoir introduit dans l'introduction, là. Mais je demande tout le temps aux invités s'ils se rappellent comment on s'est connus.
Je pense qu'on s'est croisés à un événement chez Workleap.
Exact.
Vous enregistrez un épisode à ce moment-là.
Exact.
J'allais dire G-Soft, mais ça, on va faire la correction, là. Mais ouais, puis...
Mais c'est ça, puis dans ces événements-là, j'aime ça, c'est très énergivore pour moi, là, parce que contrairement à ce que certains pensent, je ne suis pas tant un extroverti, genre, là. T'sais, j'aime ça donner un show et tout ça, mais ça me tire du jus d'être avec du monde, là. Puis, Chris, je vois plein de monde nice, dont toi, cette fois-là, mais, tu sais, on se parle 30 secondes, là, 2 minutes, là, on n'a jamais le temps de se poser et d'avoir des belles convos, genre.
Ben, ça se voyait que tu étais tiré dans pas mal de directions différentes. Là. Ça, je pense que ça se comprend aussi. Là.
Fait que là, le fait que Baseline soit devenu un partenaire certifié, ça se passe. Le fait qu'on s'est dit, OK, on veut explorer plus l'AI sur le pod, ça nous donne cette occasion-là. Fait que je suis bien reconnaissant que tu sois là. Ouais,
très content d'être là.
Fais-nous un mini highlight un peu de ta carrière. Là. Qu'est-ce qui t'a amené un peu chez Baseline?
Ah ben moi, j'ai fait longtemps dans le milieu de la restauration. Il y a
T'es sérieux?
Une vie
ah ouais.
de ça. Ouais.
OK.
Ça m'a fait me promener un petit peu partout, mais j'ai toujours eu un intérêt dans les TI, ça, depuis longtemps.
OK.
Puis éventuellement, ben,
ça prend un milieu un petit peu plus calme, ça prend un petit peu de stabilité dans une vie. Fait que j'ai fait une réorientation de carrière pour focusser vraiment complètement puis à temps plein sur les TI.
OK.
Je suis allé du côté de la formation, j'ai fini quelque chose que j'avais commencé à McGill.
OK.
Puis dans le cadre de ce cours-là, j'ai fait projet de recherche qui m'a amené à rencontrer les gars de Baseline au labo de recherche de l'Université Laval du Québec.
Ça, c'était en quelle année, mettons?
C'était 2019-2018, dans ces eaux-là.
OK.
Fait que
toi, tu rencontres ces gars-là, mais t'as pas un profil autant ultra geek qu'eux autres, là. T'es technique.
J'ai toujours été un geek dans l'âme, là. Je veux dire, là-dessus, je coche beaucoup de boîtes, mais...
Mais t'es pas en train de finir, mettons, ton post-doc en intelligence artificielle.
Non,
c'est ça. T'amènes une vibe plus quoi d'affaires, plus de projets, plus...
Un peu plus d'affaires, un peu plus de projets, puis c'est sûr que, j'ai un peu d'énergie, là, fait que ça a permis de rencontrer les boys, mais ça a permis aussi de voir un petit peu... De voir un petit peu le genre de dynamique qu'on avait ensemble. Puis ça s'est trouvé que c'était bien le fun comme dynamique. Là.
Puis Baseline, si tu avais à me le décrire en 2-3 lignes, mettons.
Ben, c'est une rencontre de. C'est des gars, on va se dire, à la base, puis maintenant seulement ça.
Exact.
Mais avec un. Check. Mais qui ont la même passion pour l'IA, qui ont cette même expertise-là, mais qui a aussi un gros tronc de valeurs communes. Mm. Le côté, on est une coopérative, puis c'est quelque chose qui transparaît dans pas mal tout ce qu'on fait. Donc, le fait qu'on travaille sur des partenaires, qu'on travaille en partenariat beaucoup, le fait qu'on travaille au sein de l'équipe de cette façon-là, je pense que ça, c'est dans l'ADN de Baseline, puis ça vaut la peine de le mentionner.
Ouais, puis c'est une des choses qui avait démarqué David quand je l'ai rencontré, là, un peu sa vision de comment il avait construit cette firme-là. Puis d'ailleurs, si le monde veut l'écouter, épisode 41 avec David Beauchemin. Puis on a aussi release l'entrevue vidéo du partenaire certifié Baseline, saspasse.com/partenaire/baseline. Il y a un beau vidéo qui est là.
Deux bons épisodes.
Ouais, exact. Fait que là, toi, ton rôle officiellement, c'est analyste d'affaires. Si tu autre chose, décris-moi un peu ton rôle.
Oui, ben le titre, c'est analyste d'affaires, spécialiste d'intégration de l'IA.
OK, c'est bon.
Donc, vraiment d'aller regarder dans les compagnies avec qui on travaille, avec qui on veut travailler, à quoi ça ressemble leurs besoins, à quoi ça ressemble leur réalité.
Ouais.
Puis de matcher ça avec ce qu'on connaît à l'interne de l'IA. Où est-ce que c'est pertinent d'aller regarder, explorer, puis faire rentrer de l'IA? Puis comment on peut le faire pour que ça, ben, que ça fitte avec la réalité d'affaires, que ça fitte avec les ressources qui sont disponibles, puis que ça fitte avec la réalité technique de ce qu'on peut développer, puis de où sont les limitations.
Fait que c'est ça, parce que de la tech ou de l'innovation juste pour de l'innovation, si c'est pas canalisé dans les besoins d'affaires qui génèrent des résultats qui font croire une compagnie, c'est un peu pointless. Ben, tu sais, c'est pas pointless, c'est du fun, c'est de l'expérimentation, mais... Vous vendez des services à des business. Fait qu'il faut qu'il y ait des use cases qui valent la peine.
Ben, c'est exactement ça.
Fait que t'es le pont un peu entre les clients, le marché, puis tout ce potentiel technique-là, ces nouvelles technologies-là. Toi, t'agis comme le bridge,
là. Ouais, ben, moi, le terme bridge, là, c'en est un que j'aime beaucoup.
Ça fait
ça. C'est vraiment ça que je visais en rentrant chez Baseline. C'est vraiment ça que je visais depuis un petit bout de temps. Mais c'est d'être capable, justement, de réconcilier des réalités d'affaires, des visions d'entreprise, puis le côté technique, ce qui est faisable, ce qui est... Puis d'aller matcher des fois des langages qui sont pas les mêmes.
Ouais.
D'aller faire codes, comme un traducteur un petit peu, là, entre le technique, c'est quoi le... Qu'est-ce qui se passe dans le boardroom, là? Ça, je pense qu'il y a des beaux exemples de manque de communication de ce côté-là.
Ouais.
Il y a des beaux exemples de quand on dit oui parce que le client veut ça puis qu'on n'a jamais regardé si la technique se faisait, puis vice-versa, de dire, on a un projet, on a assez de liberté, ça, c'est le fun, ça, c'est ce qu'on veut faire, mais si ça marche pas avec ce que le client a besoin, ça sert pas à grand-chose.
Puis l'intelligence artificielle, c'est un mot valise, là, je veux dire, ça peut vouloir dire 37 000 affaires différentes. Dans le cas de Baseline, si je me rappelle bien, là, il y a beaucoup de focus qui est mis au niveau de la gouvernance puis de l'utilisation des données. Mm-hmm. Fait que bien les collecter, qu'elles soient internes ou externes, S'assurer que ce qu'on collecte, ça va nous servir à prendre des actions, des décisions en compagnie. Mm-hmm. Mais après ça, ça peut devenir aussi funky que du generative AI pour certains cas d'utilisation, du object recognition, de la vision. Y a-tu de la statistique? Je fais-tu un bon comme de résumé, tu trouves?
Oui, ben, comme tu dis, AI, c'est très, très large. Ouais. Là. Je veux dire, il y a plusieurs sous-catégories. C'est sûr qu'on va regarder beaucoup du côté du machine learning puis du deep learning pour les techniques, le côté technique de ce avec quoi on travaille. Okay. Mais, comme tu mentionnes, ça prend plusieurs directions qui sont des fois complémentaires, des fois qui valent la peine d'être explorées. Chacune de leur côté. Je dirais, on a la chance que le NLP, le Natural Language Processing, ça soit pas mal dans l'ADN de Baseline. Il y a beaucoup d'expertise à la base qui était concentrée là-dessus. Puis ça, ben, c'est ce que beaucoup de monde connaissent maintenant comme les gros modèles de langue, c'est-à-dire les ChatGPT de ce monde.
Hey, donc, gros modèle de langue, c'est Large Language Model.
C'est Large Language Model. Je me cling!
C'est bon, c'est ça.
J'essaie de réduire les anglicismes, mais...
Ben, parfait, man. Je vais essayer de te suivre le plus que je peux là-dedans. C'est pas ma force. Mais c'est super. Puis, OK, mais là, toi, t'es cette espèce de pont-là critique entre les besoins clients puis le potentiel technique. L'intelligence artificielle, ça bouge vite. Là. On l'a vu, ChatGPT est sorti, man. Puis comme en 2 ans, ça a fait des bons d'avancement assez impressionnants. Mais les gros modèles de langage, c'est pas juste ça. Il y a plein d'autres, que ce soit en ML ou en NLP ou en deep learning, tous ces paradigmes-là de l'informatique, je veux dire, ça avance, ça bouge vite. Fait que comment tu fais un peu pour comme keep up, tu sais, côté savoir ou...
Ben, y a une couple de choses, là. Il y a pas mal de lectures, puis ça, je veux dire, il y a des belles ressources en ligne par rapport à ça. Moi, il y a un newsletter que j'aime beaucoup qui est TLDR AI. Okay. Donc, c'est Too Long Didn't Read, spécifiquement AI, où tu vas avoir un envoi par jour avec les 4-5 plus grosses nouvelles dans ce domaine-là. Okay. Quand OpenAI décide qu'il lance un nouveau modèle, quand il y a une grosse nouvelle par rapport à un clash entre par exemple, un syndicat américain d'écrivains puis leur employeur, ben ça permet de suivre un petit peu tout de ce côté-là.
C'est bon.
Il y en a du côté de LinkedIn. Là, il y a des pages avec Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science. Okay. Il y en a une couple de bonnes de commencer à regarder des articles. Puis habituellement, LinkedIn est bon pour suggérer des choses complémentaires.
On en reprend une couple dans les show notes.
Ouais, ben c'est ça.
Puis sinon... Vous avez une manière, je pense, dans l'équipe d'apprendre que moi, quand je faisais ma prep pour le pod, j'ai découvert un peu les base learn. Genre, fait que parle-moi donc de ça.
Ça, c'est la portion deep dive. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est de prendre toute l'information puis de regarder au très high level.
Ouais.
Mais les base learn, c'est une façon qu'on s'est donnée de vraiment se plonger dans des technologies qu'on considère critiques.
Okay.
Puis de se dire qu'on bénéficie de l'expérience de groupe puis de l'expertise de groupe pour vraiment regarder ces technologies-là. J'ai un exemple. Ouais. Ça fait pas super longtemps qu'un autre acronyme à mode, c'est les RAG, Retrieval Augmented Generation.
Explique-moi un peu c'est quoi. Hein?
C'est une couche d'abstraction à mettre sur les modèles de langue.
Okay.
Où, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer un modèle à travailler dans le cadre de données propriétaires ou de données d'affaires.
C'est bon.
On va dire, tu n'as pas juste le monde de ton entraînement avec lequel travailler pour répondre à la question, mais ce qu'on va te donner, c'est une base de données de documentation. Ça peut être des documents techniques sur des médicaments, par exemple.
Ouais,
okay. Puis dire, on va faire une recherche, on va interagir comme avec un modèle de langue, on va poser des questions, mais ce que tu vas nous redonner, de un, va être composé juste sur ton corpus, va être composé des documents les plus pertinents sur ton corpus. Puis, d'un, tu es sûr que tu as un backing pour tes sources.
Ouais.
De deux, tu es sûr que c'est pointu puis que ça part pas dans une direction que ça n'a pas besoin de partir.
Super. Puis, RAG.
Retrieval Augmented Generation.
Generation. OK. Ben,
ça, si tu suis un petit peu, si tu suis beaucoup les AI, disons, sur les plateformes, tu vas l'avoir vu passer, puis tu vas peut-être avoir une notion de ce que ça représente.
Okay.
Mais dans les base learn, par exemple, ce qu'on va faire, on va s'asseoir autour d'une table, tout le monde, puis il y a quelqu'un qui va avoir pris le lead de faire une recherche technique plus pointue, puis de soulever des points de discussion. Donc, comment on évalue ça? Comment, quand on déploie, quand on prépare un RAG, comment on évalue ses performances? Ben ça, c'est pas quelque chose sur lequel tu as un article qui est déjà préécrit.
C'est pas quelque chose. Frontière de... Ouais.
C'est ça. Fait que là, on est une gang autour de la table, puis là, des fois, ça part en conversation assez, assez pointue, assez ésotérique. Mais d'un autre côté, c'est le genre d'interaction, d'interactif, puis de point de vue que je vois mal être capable de trouver ailleurs.
Ouais, puis c'est un peu ben, l'expertise que vous continuellement construisez. C'est pour ça que le monde va venir avec vous autres, là. Les clients, mais OK, puis un base learn, mettons, fait que c'est comme vous orchestrez la transmission puis même l'éruption de nouvelles connaissances à l'interne. Genre, ouais. C'est vraiment, il y a de ça, puis c'est quoi la fréquence de ça, mettons, puis le format, ça dure combien de temps? Genre?
En ce moment, on les fait une fois par mois. Ça dure environ 3 heures.
OK, fait que c'est ça.
C'est un vrai débat.
Pas un PowerPoint. Là.
C'est ça, c'est pas de l'exposition, ça aurait pas pu être remplacé par écouter cette vidéo-là de 15 minutes.
Okay, c'est, bon.
C'est quelque chose qui veut vraiment approfondir un sujet. Puis
okay.
Moi, j'aimerais ça que ce soit plus fréquent. Puis ça va peut-être être dans les cartes parce que c'est vraiment un super bel outil qu'on a.
Ouais, c'est cool, dude.
Ouais.
Puis là, tu peux-tu me spoiler, genre, y a-tu d'autres sujets qui s'en viennent dans les base learn? La roadmap des base learn? Parce que juste ça, j'ai trouvé ça méga intéressant là, d'apprendre vite fait sur le RAG là, qu'on parlait. Là.
Ben, moi, je te dirais, j'aimerais ça beaucoup qu'on touche sur le generative design bientôt.
OK, fait que les Midjourney de ce monde ou là, je suis dans le champ?
On est dans le même concept, mais okay. Plus encadré. Generative design, ça va être de la création par contrainte. Donc, si on prend par exemple des logiciels de CAD, de dire, moi je veux générer un plan de X, moi je veux générer un, et ça peut s'appliquer à beaucoup de modèles, là, mais on regarde, mettons, un plan de salle pour un
spectacle.
Un spectacle ou un Congress Hall. Là,
OK, ouais, ouais.
Donc, de dire, okay. Voici ce que tu as comme réalité immuable. T'sais, ça, c'est des murs que tu ne peux pas bouger. Ça, c'est des... Voici ce que tu as comme contrainte à optimiser. Tu as tel exposant. Tu veux qu'ils soient proches les uns des autres. Tu veux que celui-là soit le plus près du trafic. Puis tu as, ben,
wow.
Voici ce que ça représente comme espace. Maintenant que tu sais ça, donne-moi des idées. Génère des possibilités. Génère des choses qui sont possibles. Quand tu parlais de Midjourney, ça peut se faire du même côté avec, mettons, la représentation visuelle, architecturale.
Ouais.
C'est-à-dire, voici ce que je veux, voici ce à quoi je veux que ça ressemble, mais voici les normes du Code du bâtiment du Québec. Puis de dire, ben, tu peux pas construire ça. Fait que celui-là, tu scope out.
Puis là, éduque-moi un peu, mettons, là, le modèle que tu utiliserais derrière ça, c'est du machine learning? Tu le nourris comment? C'est quoi, genre? Là?
On va parler de deep learning. Ouais, ben
David me l'expliquait la différence, mais je l'oublie tout le temps.
C'est donc...
Deep versus machine learning.
C'est un modèle de machine learning avec plus de profondeur de récursion, fait qu'il va avoir plusieurs couches d'abstraction. C'est le genre de choses où tu es capable de nourrir puis d'extraire des features, donc des abstractions plus haut niveau que ce que tu as en tout début de modèle.
Okay.
Après ça, je pense qu'il y a beaucoup à. Il reste beaucoup à établir sur c'est quoi la meilleure approche pour ces preuves. Pour ces problèmes-là, puis ça, c'est ça que je trouve intéressant. Là. De donner une réponse définitive, la beauté, c'est qu'en ce moment, moi, j'en connais pas, mais il y a assez de belles percées pour savoir qu'il y a du jus à tirer de cet espace-là.
Puis là, tu parlais, mettons, de RAG, qui était Retrieval Augmented Generation.
Ouais.
Puis ça, c'est l'acte un petit peu de dire, OK, ben pour une compagnie donnée qui a un dataset propriétaire, comment est-ce qu'on peut leverager ce dataset-là puis aider les gens à avoir plus de connaissances ou, je sais pas, améliorer comment ils vendent quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Mais ça, c'est très générique comme use case, right? Mm-hmm. Mais là, tu m'as parlé, mettons, de generative design dans mm-hmm. certaines contraintes comme, mettons, des plans AutoCAD ou tu as dit, mettons, de l'optimisation d'espace physique dans un lieu donné, whatever. Fait que ça m'a comme fait cliquer. Y a-tu des verticales, que ce soit en SaaS ou pas en SaaS, d'industrie dans lesquelles vous essayez de vous concentrer, baseline ou comme il y a plusieurs types de mandats?
Bon, on en a quelques-uns. Tu sais, je te dirais, le NLP, fait tout ce qui a attrait au langage, donc tout bon. Ça en est une grosse. Mais on a aussi une belle expertise avec un de mes collègues, François-Alexandre, du côté de l'industrie 4.0.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça, c'est l'autonomisation des processus de création.
OK.
Tu vas avoir un...
Industriel, beaucoup? Genre...
Industriel.
OK, c'est bon.
Un bel exemple qui mentionne souvent, c'est de prendre une ligne où tu as des décisions complexes. Dans ce cas-là, il parle d'une ligne de séchage de bois. Tu okay. vas avoir un outil qui te permet de rapidement sécher certaines planches. Mais tu passes la planche rapide, puis si ta décision de « je mets-tu certaines de mes planches dans ce four-là qui a une capacité limitée », si c'est pris par un humain, c'est le doigt dans l'air, j'espère avoir raison.
Okay. Ouais, c'est bon.
Tandis que si tu es capable de modéliser, si tu es capable de regarder quand je prends ce genre de décision-là à ce moment-là, voici ce que ça donne sur mon throughput.
Okay.
Moi, je mesure le dollar par planche ou le dollar par minute que ma ligne est capable de produire. Puis, je suis capable de faire un jumeau de ma ligne de séchage. Je suis capable de faire un jumeau numérique
ouais.
puis de lui dire, essaie des comportements différents, optimise-moi pour ça.
C'est
puis,
bon.
Prends des décisions en temps réel basées là-dessus. Fait que ça, c'est...
Okay.
C'est une petite portion de cette...
Fait que ça, c'est des verticales dans l'AI, mettons.
Oui, exactement.
Disons, là, mais il y a dans le marché, là, en termes de, mettons, OK, la construction ou genre les services de santé ou genre les coachs d'affaires, je disais un peu n'importe quoi, ça, il n'y a pas nécessairement de concentration encore. Là. Puis peut-être qu'il n'y a pas besoin d'en avoir.
Ben, je dirais qu'avec le côté NLP, avec le côté langage, ça touche assez à... pas mal toutes les industries.
Ben, c'est ça.
Pour qu'il y ait des besoins d'affaires de ce côté-là.
Ouais.
Quand tu disais que tu as de l'information propriétaire sur X puis tu veux répondre aux demandes de tes clients de façon automatisée, on en a vu des chatbots là, de plus ouais. rudimentaires à essayer de répondre rapidement et efficacement.
Au moins.
Ben, ce qui risque de faire pencher la balance vers utilisable et de façon intéressante, c'est des choses comme ça. Mais le genre de problème en NLP, je pense que ça touche beaucoup, beaucoup. Je dirais, une des verticales qui est différente, plus en esprit, on essaye de toucher, c'est du thought leadership.
OK. Fait que de l'éducation, de l'inspiration, de l'autorité un peu dans le domaine, comme.
Oui, ben de prendre des décisions concertées puis intelligentes en tant qu'entreprise, en tant qu'industrie.
Okay.
De dire, il y en a beaucoup en parlant de l'AI qui parlent des peurs que ça suscite, parlent ouais. de, ouais, OK, voici ce qui inquiète ici, voici ce qui inquiète là. Il y a eu quelques tentatives de dire, ben on devrait faire ça, mais de proposer un moratoire sur le développement quand tu n'as aucune dent pour le faire, ben bravo, là, t'as levé la main, mais tu n'as rien dit.
Je comprends.
Mais de dire... de se proposer un cadre, de se proposer une philosophie d'utilisation, de se proposer un cadre de ça. Donc là, en ce moment, on travaille avec un de nos clients pour justement développer la façon dont cette industrie-là, donc une belle industrie créative au Québec,
okay.
veut encadrer l'utilisation de l'AI. Du
okay.
côté technique, pour donner les ressources aux membres de l'industrie, mais aussi du côté éthique, du côté légal.
Ouais.
Donc, de dire, on sait que si on suit ces guidelines-là, de un, on n'est pas en train de briser de loi, puis de deux, on n'est pas en train d'accidentellement encourager une organisation ou une pratique qui est complètement contre nos valeurs.
C'est que c'est des cadres, je ne veux pas dire déontologiques, mais des cadres un peu moraux, quasiment de « Hey, comment on travaille avec ces nouveaux outils-là? » Puis j'y... faut que tu sois à la frontière puis que tu comprennes ces nouveaux outils-là pour essayer d'établir ces cadres-là. Fait que ces entreprises-là, ils vont voir puis sont comme là,
ben,
réfléchissons, ne faisons pas juste agir puis shipper du code puis essayer plein d'affaires. réfléchissons à comment qu'on utilise ces outils-là. Puis, I guess qu'avec toutes les autres innovations, il y en a eu des espèces de réflexions sur les cadres d'utilisation de même dans les entreprises. Ça reste un peu flou pour moi. Fait que je me demande. Ben là, tu sais, clairement, tu sais, il y a de la privacy avec les clients et tout ça. Fait que je veux pas nécessairement savoir, mais la forme que ça peut prendre, ça, c'est genre quoi? C'est une ou deux personnes de chez Baseline qui arrivent dans une entreprise qui disent « Parfait, expliquez-moi tout comment ça marche, vos processus. C'est quoi les incentives dans votre industrie? C'est quoi les technologies actuelles? C'est où est-ce que ça s'en va selon vous? » Nous, on va vous expliquer l'impact que, mettons, l'AI pourrait avoir. Puis après ça, ensemble, on design un peu un système ou un code.
Ouais, ben c'est ça. C'est, je dirais que l'approche qu'on prend, puis c'est une verticale qui est assez jeune. Pense que c'est... Mais l'approche qu'on prend, c'est vraiment on apporte l'expertise technique. Ouais. Donc, de soulever, ça va être quoi les questions qui sont importantes à répondre. Mm. Mais l'entreprise ou l'industrie va apporter ses réalités d'affaires, c'est l'expertise de domaine. Okay. Donc, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de scénario où on arrive, puis on fait 2-3 rencontres, puis on écrit une politique. C'est d'encadrer la façon d'en écrire une, puis d'encadrer la façon que vous puissiez en écrire une, si on veut. Donc, de dire, ben notre politique de gouvernance de données, ça va ressembler à ça, 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 parce que on s'est posé les bonnes questions, puis on savait c'était quoi les bonnes questions à se poser.
Y a-tu des avertissements que tu aimerais faire ou donner aux gens quand ils réfléchissent à l'AI ou qui veulent travailler avec du monde qui sont pro, entre guillemets, en AI? Tu sais, y a-tu un public service announcement qui est pertinent ici?
Ben, je dirais... L'AI, tu l'as dit, là, c'est un mot panier, puis c'est un mot qui est très, très à la mode. Mm. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont rajouté intelligence artificielle quelque part sur le site web dans les deux dernières années, juste pour dire. Là. Ça, c'est une chose, mais de l'autre côté, c'est pas une solution à tout non plus. Mm. Donc, de se dire que n'importe quel problème peut être réglé par l'AI, c'est loin d'être le cas.
Okay.
Je pense que c'est plus important de savoir départager où est-ce que c'est pertinent de regarder l'AI comme solution, où est-ce que ça ne l'est pas, puis de dire, ben quand ça l'est, là, on a un plan d'action qui est clair, mais on n'est pas juste en train d'essayer de mettre de la sauce AI sur quelque chose qui n'a rien à voir parce qu'en ce moment, c'est à la mode.
Ben, rentrons un peu plus creux là-dedans, là, parce que vous travaillez avec plusieurs SaaS de votre côté, puis toi, ton rôle, on l'a expliqué, c'est un peu ce bridge-là entre les besoins d'affaires puis l'expertise puis le potentiel technique. Y a-tu des cas où tu arrives dans un SaaS, mettons, justement, puis que c'est un peu ça ta conclusion? De dire genre, ouais, ou genre, ils sont pas prêts, ou il manque quelque chose, genre, quand est-ce que... C'est des exemples?
Je dirais... moins avec les SaaS qu'avec certains de nos autres clients, parce qu'en règle générale, la gouvernance de données est déjà là, dans une bonne mesure. Puis, il va y avoir des capacités de développement, puis une lecture, puis une compréhension des possibilités de l'AI qui sont peut-être plus avancées qu'avec certains clients qui sont complètement en dehors du tech.
C'est bon.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation. Non, effectivement, vous avez... bien leverager l'AI quand c'était possible. Là, c'est pas le cas. Il y a des points où il n'y a rien à faire à court terme parce qu'on n'a pas, une structure de données qui se prête à ça en ce moment. Mais souvent, ça va dire, ben si on change telle pratique d'hygiène de données, telle pratique de collecte, si on vient rajouter cet aspect-là, ben là, à terme, effectivement, on pourrait regarder à faire tel genre de choses. Donc, des fois, c'est de dire pas... Non, il n'y a rien à faire, mais on va se revoir plus tard. Puis des fois, c'est de dire, ben, c'est ça.
Puis, mettons, pardonne mon ignorance, là, mais mettons, hygiène de données, là, comment tu le définirais? Parce que j'ai quand même une vision floue de ce concept-là.
Ben, c'est, en gros, la politique puis l'exécution de ce qu'on va faire avec les données qui rentrent.
OK.
De comment on structure ça, comment elles vont rentrer en relation les unes les autres, comment elles vont être utilisées par les différents processus d'affaires, comment on les protège. Okay. C'est assez large, selon moi, comme discipline. Mais en gros, c'est de dire que, surtout pour les SaaS, là, les données, ça va être une grosse ressource, ça va être une grosse valeur.
Ouais.
Donc, de bien la gérer, de bien l'adresser, puis de bien travailler avec.
Puis mettons, là, je freestyle un petit peu, mais mettons que tu te mets dans les souliers d'un founder SaaS bootstrap. Ce sont 2-3 devs, une personne au marketing, une personne au support. Ouais. Puis genre, that's it. Tu sais, ils commencent, ils ont genre 50-100 clients. Ils commencent à générer du cash, générer des revenus, puis ils ont de l'utilisation sur leur app, right? Fait qu'il y a de la donnée qui se matérialise ou qui se crée. C'est quoi les low-hanging fruits pour commencer à avoir une bonne hygiène, puis peut-être pas une full-blown politique d'utilisation des données dans notre entreprise, mais c'est quoi les trucs pour genre se donner des chances pour le futur quand on va pouvoir leverager toute cette donnée-là, mettons?
Ben, je pense que plus tôt que tard, de faire l'exercice de à quoi ça ressemble notre architecture de données en ce moment,
okay,
puis à quoi on veut que ça ressemble dans 5 ans, mettons.
Okay.
On n'a pas cette fonctionnalité-là, puis on ne commencera pas le développement là-dessus pour les 2 prochaines années, mais on le sait que c'est quelque part dans les cartes, ben, de réfléchir un petit peu à quoi va ressembler notre structure de données pour ce point-là, comment ça va rentrer avec ce qu'on a déjà, puis comment on va faire en sorte qu'on ne se ramasse pas avec l'équivalent d'un code spaghetti, mais de structure de données.
OK, c'est bon. Puis, comment... Écoute, là, je vais un peu off-script parce que j'ai des trucs qui m'intéressent, mais la notion de biais dans la donnée,
ouais,
et puis de bruit dans la donnée, fait que denoiser, mettons, du bruit ou unbiased, genre débiaisé de la donnée,
ouais,
tu peux-tu me donner un peu plus de couleur là-dessus, puis...
Ben ça, en soi, c'est une discipline qui est super intéressante parce que ça, okay, peut venir d'une couple de places différentes. Si c'est des données qu'on a de senseurs, ben là, il y a une question de qualité, de contrôle, okay, de qualité de l'environnement physique.
OK, ouais. Y a... Mettons, température, météo, je sais pas quoi. Là.
Exactement. Okay. Mais tu sais, de se rapporter à où est notre lecture par rapport à c'est quoi la réalité objective, okay, du monde qu'on observe.
Okay.
Mais tu as aussi, justement... t'as de la collecte de données qui, oui, c'est techniquement un vrai point de données, mais c'est pas un point de données de qualité parce que on a des interactions automatisées avec un utilisateur, puis on essaie de modéliser une conversation, puis ça n'a pas de sens en tant que tel. C'est une grosse discipline en soi.
Okay.
Le contrôle de qualité de données, ça n'a pas l'air, je pense, mais moi, je trouve ça super intéressant comme sujet. Ouais. Là,
ben, moi aussi.
Ben, c'est ça. T'as des problématiques qui ne sortiront pas avant d'avoir essayé de l'appliquer à certaines sauces.
Okay.
On regarde, par exemple, d'appliquer des conversations à des modèles, d'essayer de faire de la prédiction sur est-ce qu'une conversation est... On prend un événement catastrophique en assurance. Puis là, on essaie de voir si la conversation jusqu'à présent prévoit que ça décrive un événement catastrophique.
OK.
Ben, dans la plupart de ces cas-là, ça va être des longues conversations. Puis le modèle va juste se forcer puis apprendre et prendre la longueur de la conversation comme un gros signal. Donc,
il faut forcer
de ne pas intégrer puis de ne pas développer certains biais pour que les modèles qu'on veut développer aient de la valeur puis aient de l'utilité. Fait que c'est un problème de recherche d'un bon ami à moi. Là.
Okay.
Mais c'est quelque chose qui, je pense, donne une idée du genre d'impondérable, la portion que tu sais pas que tu sais pas par rapport à ta donnée. Puis de dire, ben OK, ben, on pense qu'on collecte comme du monde, mais il faut aussi garder ça en tête, puis il faut se donner l'option de faire X, de faire Y. Fait que si tu segmentes comme du monde, ben là, tu es capable d'adresser le problème de longueur en disant, ben je veux juste prendre X nombre de segments. Mm. Tandis que si tu te ramasses avec que des conversations, ben là, ça devient plus difficile.
OK. Puis la notion de denoising, ça sonne-tu une cloche ou ça
se parle? Je vois ce que tu veux dire. Je suis pas assez ferré là-dedans pour te donner une réponse.
Pas de trouble. Pas de trouble. Je respecte à mort, man. J'essaie de creuser parce qu'il y a plein de topics de geeks que je fais juste toucher en surface avec des amis. Ou j'ai un ami qui a appris la data science. Puis là, il est en train de me montrer plein d'affaires. Puis il dit, tu aurais pensé que sur telle donnée, genre, tu aurais pu prendre telle bonne décision. Mais regarde, quand j'explose cette donnée-là en différents autres points, tu te rends compte que non, c'est pas... Puis là, je suis le tabarnak tout droit, man. C'est un potentiel énorme, mais faut l'utiliser ta donnée, de la leverager, mais faut que tu le fasses comme du monde. Puis tu t'assures justement de la qualité de la donnée.
Puis, un des points sur lesquels, des fois, il faut se le rappeler dans le domaine, mais c'est de se familiariser pour vrai avec la donnée sur le terrain. Puis, j'en ai vu beaucoup en mode recherche puis en mode développement de modèles pour lesquels tu t'assumes que tu as un bon dataset, tu penses, et tu regardes pas un sample de 50 des points de données pour te donner une idée, pour vraiment aller voir, aller essayer de spotter des choses que tu n'aurais pas pensé, des caractéristiques de cette donnée-là qui sont « Ah, OK, on regarde regardons un modèle de transcription d'audio pour la compréhension, pour faire du sommaire de compréhension.
Ouais. »
Puis, ben, tu regardes, par exemple, tu écoutes la radio québécoise, là,
ouais.
Il va avoir beaucoup d'anglicisme. Ouais. Il va avoir beaucoup, dans certains cas, de vulgarité.
Mm.
Ben, ce cas de figure-là, jusqu'à temps que tu aies passé un petit peu de temps avec plusieurs extraits, tu ne l'auras pas vu passer, puis tu n'auras pas pu planifier pour on deal avec ça. Tu n'auras pas pu anticiper ce que ça veut dire de, puis tu n'auras pas pu. Fait que c'est de passer du temps avec la donnée, je pense que c'est jamais une mauvaise pratique.
Puis tu sais, tantôt, tu parlais de dataset propriétaire. Là, fait que mettons que tu es un, bon, je sais pas, là, tu es un SaaS qui aide les, disons, les dentistes, là, c'est l'exemple qui me revient tout le temps en tête. Là.
Ouais.
Puis que eux, de par les actions qu'ils prennent dans ton software, ils génèrent un paquet de données. Mettons, ils donnent de l'info sur les patients, ils donnent de l'info sur les prix, ils donnent de l'info sur plein d'affaires. Penses-tu que, éventuellement, ou peut-être ça existe déjà, puis je suis juste noob, il va y avoir des compagnies qui vont vraiment développer puis aller chercher puis nettoyer des datasets propriétaires pour les vendre à d'autres qui ont déjà les modèles puis ils veulent plugger les modèles sur ce dataset-là. C'est-tu comme un business model sur le sens du monde? Je suis-tu dans le champ?
C'est loin d'être dans le champ. Je veux dire, au sens plus général, ça existe déjà puis on le voit passer dans les nouvelles. Là.
Ouais, les ads, Facebook.
Exactement. Wow. Reddit vient de signer un deal pour vendre toutes ces conversations.
T'es sérieux? J'ai pas vu ça.
Avant hier, là, tu sais.
Ah ouais.
Fait qu'essentiellement, de dire, ben voici un dataset, voici la structure qu'il a, puis par notre Terms of Service, on y a droit, puis il y a personne qui nous a explicitement empêché de le monétiser. Fait qu'on le fait. De le faire avec des datasets beaucoup plus niches, ça existe déjà un petit peu. Est-ce que ça va devenir un marché? Est-ce que ça va devenir une avenue viable? Je ne sais pas. J'ai l'impression que pour un SaaS, c'est probablement plus intéressant de le valoriser à l'interne que d'essayer d'en sortir quelques scènes. Parce que selon moi, puis encore une fois, c'est un biais personnel, mais si tu génères de cette belle donnée-là qui est propre à ton domaine d'affaires, puis dans ton domaine d'affaires, il y a du développement. Et ben, il y a des bonnes chances que tu sois capable de le valoriser à l'interne, puis que ça ait plus de...
Mais OK, mais mettons, flip ça de bord, puis mettons qu'on se dit, je suis un nouveau SaaS.
Ouais.
Puis j'ai pas beaucoup de données empiriques, j'ai pas encore de politique et structure de données, tout ça.
Ouais.
Probablement que si je m'adresse, mettons, au marché des dentistes, probablement que je serais prêt à payer pour me plugger sur un dataset qui va me permettre de faire des meilleures recommandations, mettons, dans mon software pour mes nouveaux utilisateurs dentistes.
Ouais.
Je sais pas.
Ben, c'est...
Là, je suis vraiment dans le freestyle.
Non, mais c'est sûr que oui, c'est sûr que tu vas avoir l'intérêt pour. Fait que je pense que ce marché potentiel-là existe. C'est là où je reviendrai sur le côté politique d'utilisation des AI puis politique de gouvernance de données. Parce que si tout le monde est consentant dans l'équation, là, fantastique.
Ouais.
T'sais,
OK, ouais. Si ton... le côté éthique de tout ça.
Mais tu parles de dentiste, je veux dire, on est dans les données médicales. Là. On est dans... Il y a du... Il y a un côté légal, il y a un côté moral à ça, mais de le définir comme du monde, puis de faire une pratique qui, justement, permet à des nouveaux SaaS de leverager des données de la bonne façon, il y en a des possibilités. Il faut juste le faire comme du monde.
OK. C'est vraiment intéressant, dude. All right, folks. Break de 30 secondes pour vous parler de notre partenaire certifié, Le Chiffre, a.k.a. le bras droit de l'entrepreneur tech. C'est une firme comptable, moderne, tech-enabled, qui organise puis opère toute votre fonction finance. Comptabilité cloud, paye, fiscalité, check. C'est des vétérans du SaaS, qui accompagnent aussi votre croissance. prévision, planification financière, aide aux subventions puis financement. Ils ont aidé des SaaS bootstrap, funded, puis plusieurs qui ont exit. Donc, peu importe votre étape de croissance, faire affaire avec le chiffre, c'est comme ajouter un vétéran à votre team la veille des séries. Il vous aide à gagner la game, peu importe l'objectif, que ce soit des grosses transactions, acquisitions ou du financement. Leurs conseillers vont se parquer devant votre but puis pas en laisser passer une. C'est The Real MVP. Check out leur entrevue sur saspasse.com/partenaire-le-chiffre ou sur notre YouTube. OK? De retour au pod.
Puis toi, t'es exposé beaucoup à ces... J'appelle ça les alchimistes de l'AI, là, les geeks, les PhDs, les postdocs, les whatever. Comment que c'est travailler avec ce monde-là? Parce que, tu sais, à une plus petite échelle, moi, je suis zéro dev, là, moi. Mais je suis arrivé dans le milieu du travail, je travaille avec des devs. Tu sais, c'est comme un profil à apprivoiser, disons.
Ouais.
Ou juste, ne serait-ce que des langages et des codes à apprivoiser, des références. Fait que toi, tu travailles avec eux, tu leur parles de façon quotidienne. Comment tu trouves ça? Parle-moi un peu de ça.
Ben moi, je dirais, s'il y a un trait de personnalité plus stéréotypique que moi, j'aime beaucoup, c'est la volonté puis l'amour de résolution de problèmes.
Okay.
Ça me parle d'être pitché devant un problème intéressant. Je pense qu'il n'y a aucun de mes collègues que j'ai pas vu s'allumer en jasant de quelque chose d'un petit peu ésotérique parce que, oh, OK, j'avais pas réfléchi à ça. Ça, on pourrait faire ça de même, on pourrait faire ça de même, on pourrait... Oh, puis là, tu vois la roue qui spin, là. Fait que de ce côté-là, je te dirais, c'est un bon stéréotype. Je pense que c'est un truc qui s'applique bien à la portion de l'industrie que je vois, en tout cas, à notre portion de l'industrie. Puis ça, c'est
toujours là. Curiosité, passion, résolution de problèmes.
Ouais. Il y a un concept que j'aime bien, le nerd sniping. Là.
C'est quoi ça veut dire?
Il y a un certain type de personnalité que si tu le présentes avec un problème qui est intéressant, il va complètement arrêter de fonctionner autrement, puis tu vas juste être pogné avec la roue qui spin. Tu sais, le beach ball sur les vieux OS Mac, là. C'est... Ça, j'ai toujours trouvé ça très drôle parce que.
Nerd sniping.
Ça m'arrive souvent de faire OK, non, tu viens de me perdre pendant 5 minutes dans la conversation. Là.
C'est hot. Puis, tu sais, ton rôle d'analyste d'affaires, mettons. Là.
Ouais.
Mettons qu'il y a un SaaS qui vous approche. Puis qui est comme ouais, on pense qu'on pourrait peut-être leverager notre donnée ou on aurait besoin d'aller en chercher d'autres. Puis on voudrait faire des recommandations de la personnalisation, peu importe c'est quoi qu'ils veulent. Ça ressemble à quoi ton processus, mettons, tu sais, de qu'est-ce que tu checks, quelles questions tu poses?
Ouais. Ben, le processus d'analyse d'affaires en général, pour moi, c'est assez simple. Là, sans, on essaie de se faire une idée puis de se faire une cartographie de base des processus de l'entreprise ou du segment de l'entreprise qu'on est en train de regarder. Qu'est-ce qui se fait, surtout dans les processus qui créent ou qui utilisent la donnée, évidemment. Mais qu'est-ce qui se fait? C'est quoi le flow de l'information? C'est quoi les interactions clientèle avec?
Cette cartographie. Excuse-moi. Ouais. Cette cartographie-là, elle vit où, mettons? C'est un Miro? C'est un Figma? C'est un quoi, genre?
Ah, oh, ben je...
Moi, agnostique,
je... Il y a certaines affaires sur lesquelles je suis très old school. Fait que pen and paper, moi, je suis un gros fan de tableau blanc.
Pour mapper ça, ouais.
Exactement. Puis là, ben, t'as une couple de logiciels, les Lucidchart, puis les Draw.io de ce monde qui te permettent de... permettre de faire la représentation numérique de ça.
C'est bon.
Fait que c'est ça, de cartographier les processus, de comprendre qu'est-ce que... Puis en les disséquant, ben là, on est capable de commencer à identifier puis de commencer à regarder, ben là, il y a des pain points possibles. Là, il y a des... Ouais, là, on voit que le bas blesse en termes du niveau d'efficacité qu'on a à faire cette tâche-là ou du niveau de frustration que ça gère chez les employés, ou que ça génère du côté des clients, le taux d'efficacité qu'on a. Donc, on est capable de voir puis d'identifier où sont les problèmes un petit peu. Du côté des SaaS, une lentille de plus qu'on rajoute, c'est de regarder les ressources internes spécifiquement quand on parle d'AI, quand on parle de développement, il y a beaucoup plus de cas où des SaaS vont avoir leur résident spécialiste d'AI ou une petite équipe de, même si ce n'est pas un titre formel, même si ce n'est pas un, puis dire, ben on veut faire ce projet-là. On a déjà quelqu'un qui est capable de réfléchir, d'amorcer la réflexion ou de commencer à lancer le projet. Il y en a qui sont plus avancés, il y en a qui ont plus de monde. Puis ça, c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire de notre point de vue. Ça veut juste dire que là, on passe de mode guidé à un mode accompagné, puis un mode faire un sounding board, de dire tout.
Ouais, à la limite, c'est que tu as un champion à l'interne. Là, tu sais, c'est un plus, mettons.
Exactement. Puis je veux dire, il y a un client avec lequel on travaille que l'équipe presque entière, c'est de l'expertise AI.
OK.
Mais d'avoir une coupe de tête de plus, une fois de temps en temps, pour sounder puis pour aller faire un scrum par rapport à « ouais, ça aurait-tu de l'allure? Voici ce qu'on peut prendre comme approche. Voici où le state of the art. » Fait que des fois, de faire aucune ligne de code, des fois, de faire aucun inconscient technique, mais juste de dire « ben on rajoute soit un filet de sûreté, soit juste de la profondeur à la réflexion.
Okay. »
Puis d'encadrer le développement ou de permettre de donner la visibilité ou juste des fois d'offloader, de dire ben
ouais, juste voici, du jus de coude.
Exactement, ouais. Voici les 5 projets d'AI qu'on a identifiés, qu'on a scopés, qu'on se dit que ça serait le fun, mais ben mon dev, il a juste 30 heures dans sa journée, fait que tu sais...
Mais ça doit pas être la majorité de vos clients, right?
Non, c'est ça. Dans les SaaS, il y en a quelques-uns, mais c'est une lentille de plus qu'on rentre parce que c'est le fun d'avoir cette dynamique de plus-là.
Ouais.
Mais souvent, ça va être de faire notre plus traditionnel. Ça va être de dire justement, on a regardé à quoi ça ressemble, on a une bonne compréhension des processus d'affaires, on est capable de regarder c'est quoi les contraintes en termes de ressources, puis là, on commence à matcher ça avec des solutions possibles. Il y en a que c'est de l'AI. Il y en a que c'est aucunement du développement, puis c'est de dire, ben voici l'outil out of the box qui te permettrait de faire ça.
Ouais.
Voici le site web sur lequel tu vas t'inscrire. Puis...
Fait que là, tu fall back plus comme conseiller, consultant en transformation numérique aux besoins. Hein, c'est-à-dire si tu n'as pas besoin d'AI, tu vas y conseiller d'autres choses.
Ben, c'est exactement ça. C'est puis on a des partenaires avec qui on travaille qui se spécialisent de ce côté-là. Fait que si ce que tu as besoin principalement, c'est de la gestion du changement, probablement qu'on va te proposer quelqu'un avec qui travailler. C'est quelque chose qu'on peut faire dans le scope de projet. C'est quelque chose qu'on aime faire quand même. Mais en gros, c'est de scoper pas juste les AI, mais de scoper les problèmes qu'on a vus, les opportunités d'amélioration puis d'augmentation d'efficacité puis les opportunités de fonctionnalités additionnelles qu'on a scopées, ben de dire, des fois, c'est un projet de développement full scale puis voici à quoi ça ressemble. Ça te tente-tu? Go, on le fait. Puis des fois, c'est de dire, ben voici tel partenaire avec qui tu peux travailler ou voici telle ressource, puis go. Là.
Puis c'est ça, c'est parce qu'avec les SaaS, souvent, tu as un certain literacy au niveau du AI qui peut être présent. Tu as juste de la bande passante puis des compétences techniques de développement web parce que c'est bien beau, machine learning, deep learning, NLPs, mais tu sais, ces modèles-là, la résultante de ces modèles-là, elles doivent vivre à quelque part dans une application web, une expérience web. Fait qu'il va falloir probablement que tu fasses du bon vieux web dev.
Exactement.
Fait que ça, vous en avez à l'interne aussi, par exemple.
Oui, exactement.
Fait que si tu pognes un client qui a zéro littératie en AI, zéro bande passante en web dev, vous êtes quand même capable de l'accompagner.
On est capable de le prendre de A à Z. Fait que c'est juste de scoper différent. Mais c'est pour ça qu'avec les SaaS, des fois, ça ressemble à autre chose qu'avec un client qui n'a aucune de ces ressources-là à l'interne.
Ouais.
C'est de dire, ben, on va t'en faire une interface, on va t'en faire une versus... Non, moi, j'ai mon équipe, ils ont déjà leur pratique, ils ont déjà leur CI/CD, ils ont déjà leur pipeline de travail, tout ça. Tout ce qu'on a besoin, c'est de monter une API que tu vas pigner avec telle information. Il y a un modèle derrière qui va la traiter, qui va te donner la réponse que tu veux. Merci, bonsoir.
Puis, as-tu un exemple de SaaS pour lequel vous avez fait ça, maintenant?
Oui, bien, il y a un exemple que j'aime bien, un client qui porte deux chapeaux, en fait.
Okay.
C'est un libraire qui a plusieurs librairies.
Nice.
Puis, il a identifié que dans cet espace-là, il y avait un gros manque d'outils modernes, d'ERP, de librairies.
Explique c'est quoi un ERP pour le monde.
Enterprise Resource Planner.
C'est un
logiciel de gestion de ressources pour les entreprises.
Exact.
Ça va faire plusieurs fonctions d'affaires dépendamment duquel. T'en as qui vont te rentrer ta comptabilité, t'en as qui vont te rentrer
ton inventaire,
tes charts. Mais
ouais.
En gros, dans celui-là, c'est beaucoup de l'inventaire. C'est
parce qu'il y a des SKU à pu finir en librairie. Maintenant.
Exactement.
C'est bon.
C'est de l'interface avec les fournisseurs. Ouais. Fait que c'est de générer de générer des purchase orders puis de les communiquer directement avec les fournisseurs, de travailler avec les retours, etc. Fait que lui, il s'est parti d'une division, il s'est créé un mode SaaS. Il a commencé à travailler et à développer un ERP à faire en SAS.
Ouais.
Ben,
ouais,
pour rajouter à ça, on a travaillé avec lui pour faire un conseiller virtuel, fait qu'un chatbot.
OK.
Qui travaille, et là, on travaille avec les RAG, ben, qui peut prendre et qui va avoir une conversation avec un client ou avec un conseiller.
Ouais.
Puis qui va aller chercher des livres qui correspondent à ce qu'on veut, mais dans un inventaire, encore une fois, comme tu dis, des SKU à n'en plus finir, mais de comprendre les thématiques, de comprendre les auteurs, de comprendre, et là, plus récemment, d'intégrer les couvertures. De rentrer puis de dire, j'ai vu un livre avec un chien jaune sur un fond vert, là, c'était...
Ah, c'est
bon, ça. Ben, OK, si t'as pas... Si en tant que conseiller, t'as pas cette connaissance encyclopédique-là, ben tu peux pas...
Non, c'est pas tout un vieux savant qui connaît toute la librairie au bout de ses doigts, là.
Exactement.
Fait que là, OK, fait que là, t'as un outil, une app web, mettons, qui va répertorier probablement un inventaire, qui va te permettre de voir c'est quoi les livraisons qui arrivent, les retours qui s'en viennent. Mais t'as aussi jumelé là-dedans, intégré là-dedans des fonctionnalités d'IA qui, comme un chatbot, qui vont permettre de comme rendre un peu des super pouvoirs aux gens qui travaillent dans cette librairie-là.
Ben exactement.
Fait que mieux conseiller des clients, par exemple.
Mieux conseiller des clients, mais aussi, tu es en mode planification d'inventaire.
C'est ça.
Ben là, tu as des informations à n'en plus finir sur tes variations de stock. Il n'y a pas beaucoup de logiciels qui ont quelque chose de plus sophistiqué qu'un power level pour les produits. Mmh. Voici le produit que j'ai, voici combien j'en ai en inventaire, puis voici le niveau minimum que je veux en inventaire, c'est 3. Ben, si j'en ai moins que 3, tu vas me générer un purchase order ou tu vas me générer une nécessité d'aller en recommander un de plus. Tu vas me suggérer d'aller en recommander plus.
Okay.
Sauf que c'est quoi mon vrai degré de commande? C'est quoi mon vrai niveau de roulement qui est intéressant? Puis là, ben, si on regarde justement dans le cas de librairie, ben, tu as des sorties à chaque semaine de produits. Tu as des produits qui...
Ouais.
Qui partent en popularité en fou, ben là, est-ce que celui-là, j'ai besoin d'en avoir 10, 15, 20, 50 dans ma succursale à moi?
Ça peut être plugué sur de la donnée externe aussi, ces recommandations-là.
Exactement, parce que tu as des palmarès qui sortent. T'as des émissions de variété.
Puis là, après, le monde, je veux dire, l'optimisation, mettons, d'affaires est infinie, parce que tu peux dire, éventuellement, tu vas pouvoir l'interroger sur par catégorie. Genre, quels ont été mes meilleurs vendeurs et à quelle période. OK, propose-moi un plan de purchase order en fonction de ces... Fait que tu sais, éventuellement, là, je ne sais pas
ça.
Vous êtes où là, dans le développement. Là.
Il y a une portion de ce que je te dis qui est encore dans le futur. Il y en a qui est déjà up and running.
C'est ça.
Mais c'est exactement ça. Puis là, ben, t'as
ça, c'est une house, mais il pourra la commercialiser, probablement.
Ben, exactement. Mais t'as ton côté, recommandation, mais t'as ton côté interprétation aussi. Tu es capable de regarder ce que tu as comme données puis de commencer à aller chercher, à aller combiner puis à aller extraire. J'en ai vu beaucoup du monde bien intelligent se foutre complètement d'un rapport parce qu'il y avait une couple de pages de trop, parce que c'était un petit peu trop de stock puis que c'était pas assez sommaire exécutif. Que c'était pas
un
10,000 feet. Fait que d'avoir l'approche de dire, ben OK, on va te faire des rapports où on va combiner certaines informations qui ont été extraites automatiquement. Puis après ça, si tu veux faire un deep dive, ben là, tu es capable de le faire. Là, tu es capable d'aller en chercher plus. Fait que ça, c'est... Là, on est en train de parler de code figure à gauche, à droite. Là,
mais non, mais c'est le fun parce qu'on met genre des tâches, des actions, des processus d'affaires concrets comme exemple. Là,
ben...
Fait que ça rend ça plus dans le vrai monde. Là.
Ben, c'est ça. Puis tu sais, du dashboarding, c'est... Moi, j'aime ça, là. Je veux dire, la visualisation de donner, je trouve ça fantastique. Puis de faire parler ce que t'as comme données, puis d'essayer de la faire parler, pas juste pour ce que ça veut dire, mais pour ce que ça peut vouloir dire, pour les actions que tu peux avoir à prendre. Ça aussi, c'en est un qu'on regarde, parce que, je veux dire, une des belles percées qui a été faite avec les modèles de langue puis qui est en train d'être explorée en ce moment, c'est la standardisation de données non standard. C'est de prendre des... Tu prends un PDF de 70 pages qui est une convention collective de telle organisation-là. Ben, il y a probablement quelques points de données là-dedans qui seraient vraiment pertinents à avoir dans un format structuré, dans un format que tu peux regarder puis que tu peux, après ça, suivre. Les salaires, les conditions d'ancienneté, puis tout ça. De passer à travers ça, puis de dire, je le fais avec un document, voici le modèle. OK, peut-être que ça se fait. Si tu veux le faire sur une industrie au complet, ça devient une tâche herculéenne. Donc, de dire, je prends ce document-là, puis je donne un template de l'information que je veux avoir, puis je lui feed quelque chose de non structuré, j'extrais ça, bien là, tu es rendu avec de la donnée structurée, puis là, tu es capable de faire des stats. Là, tu es capable de regarder tes métriques. Là, tu es capable de dire, ben.
Ouais, puis tu peux benchmarker, tu peux vendre l'accès à cette donnée-là aussi. Il y a plein de cas d'affaires.
Mais c'est ton...
C'est tôt distant, des fois, la quantité de possibilités qu'il y a. Non, mais d'applications qu'il y a. Parce... En tout cas. Mais là, tout ça, tu sais, ça a un prix, cette expertise-là. Puis tout ça, fait que j'ai le goût qu'on parle de pricing. Tu sais, travailler avec Baseline, mettons, ça coûte cher, ça coûte pas cher. C'est-tu subventionné? Comment ça marche?
Ben, le subventionné, c'est bon à soulever parce que ça, c'est intéressant. Il y en a quand même une couple de programmes. C'est toujours en mouvance, exactement. Fait que c'est une science en tant que telle de suivre ce qui se passe avec ça. Mais il y a beaucoup de programmes de transformation numérique. Il y a beaucoup de programmes de RSDE qui vont permettre de partir des projets.
Investir dans l'innovation puis
la modernisation. Fait que ça permet de faire en sorte que souvent, il y a une portion de notre bill qui est prise par un programme ou un autre, là, un programme de subvention ou un autre. Après ça, pour les coûts en tant que tels, ben, on le sait que souvent, la meilleure façon de bien travailler avec quelqu'un, c'est de faire une entrée brève, puis de faire cette compréhension-là dont on parlait tantôt. Mon rôle à moi... de regarder les processus d'affaires, de regarder comment ça fonctionne, mais sans se lancer dans du développement déjà, sans se lancer dans du défrichage.
C'est comme le diagnostic incroyable. Un peu. Là.
C'est le diagnostic. Puis ça, ben, on le fait, on a un programme à prix fixe à 6 500.
Okay.
On rentre,
c'est bon.
Ça va prendre une couple de semaines ou une couple de mois, dépendamment. Si ça prend
la
plus
complexité
de... La complexité, puis des fois, le temps de faire circuler les données. Tu sais, on préfère le faire sur la bonne période, mais d'avoir eu les bonnes informations pour pouvoir donner une réponse qui a de l'allure.
À quel point tu es épaulé par le client, les gens...
Ben, exactement. Tu sais, à quel point, des fois, c'est plus compliqué de sortir
ça,
le genre de données qu'on a besoin.
Puis le résultat de ça, c'est genre, check, man, on a mappé tes processus d'affaires, les tâches, où est-ce que la valeur passe, où est-ce qu'il y a les bas blesses, whatever... Puis on a identifié des lignes potentielles de comment les AI pourraient t'aider ou pas.
Exactement. Fait que c'est surtout la dernière portion. C'est surtout le voici les problèmes qu'on a identifiés, puis voici les solutions possibles. Puis là, ben, de donner une idée de grandeur plus précise. Habituellement, ce qu'on va faire, c'est de scoper un projet. Fait qu'au lieu de se dire, ben, probablement qu'on va travailler ensemble pour les 3 prochaines années, puis voici combien on coûte de l'heure, ben, c'est de dire, regarde,
concret.
Ça, c'est. Le cahier de charge avec lequel on est confortable, qu'on est capable de proposer, c'est les livrables qui en sortent, puis ça, c'est le montant que ça va coûter.
OK, c'est bon. Je suis en train de me dire d'autres, là, faudrait quasiment que je vous donne un discount sur le rabais du partenaire, un discount sur le partenariat certifié pour qu'on s'assoie puis qu'on fasse ça pour ça se passe, man, parce qu'il y a tellement, tu sais, ça me fait fire up plein d'idées, puis on dirait que je ne prends jamais le temps de m'asseoir comment qu'on pourrait utiliser notre donnée puis mieux la collecter aussi, puis tout ça. Puis c'est assez naissant comme projet, là, mais anyway, on garde son semaine pin, là, mais...
Je veux dire, je prêche pour ma paroisse, là, mais j'ai l'impression qu'il y a il y a souvent des cas de figure intéressants. Puis moi, c'est ce que j'adore de ce que je fais, c'est qu'en parlant à du monde dans des industries super diverses, ça te fait sortir des cas de figure, puis ça te fait penser à OK, mais ça peut être intéressant à regarder, ça peut être quelque chose à appliquer. Puis ben le fait de le faire avec d'autres clients, ça permet de faire en sorte que pour le suivant,
exact. T'es plus
je l'ai eu cette idée-là, ben c'est ça, j'ai une corde de plus à mon arc, j'ai une petite plus dans ma boîte à outils. T'sais.
Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus le fun versus le plus tough dans ton rôle en ce moment chez Baseline?
Ben, je te dirais le plus le fun, on est dans cette zone-là, c'est de voir une multitude de problèmes d'affaires, puis d'être capable de retirer, puis d'aller chercher des nouvelles idées à chaque fois. La satisfaction qu'il y a de trouver la bonne pièce de puzzle pour le bon trou, là, c'est dur à battre comme feeling, là. Ça, c'est vraiment le fun. Je dirais, le plus tough, ben, c'est un milieu qui bouge vite.
Ouais.
C'est d'être en confiance, qu'on s'est bien informé, puis qu'on est capable de répondre en connaissance de cause. Ça demande de faire de la lecture, ça demande de se tenir au courant d'eux, ça demande de faire les baselines,
ouais.
Mais ça demande une discipline pour ça, puis ça, c'est... Ça pardonne pas beaucoup de ne pas regarder pendant une petite période puis de laisser ça de côté.
Mais en même temps, il te faut une hygiène de diète d'information, tu sais, tu veux pas être tout le temps plugué, fait que toi, dans le fond, t'as ces ressources-là qui sont un peu comme des middlemen ou des points qui te permettent de... Tu sais que quand tu consommes ce contenu-là ou que tu vis un base learn, mettons, là, c'est là que t'assimiles la nouvelle information. Puis
ouais, ben c'est ça.
Tu le structures. Comme,
exactement. Hein. J'ai quelques sources d'informations, mais encore une fois, à l'interne, on a cette belle discipline-là qu'en dehors des base learn, ben on a dans nos canaux de communication interne la veille techno. Puis là, justement, ben les plus gros morceaux, là, ceux qu'on n'a pas le choix de voir aller, ils vont apparaître de toute façon. Fait qu'on a cette discussion-là qui est ongoing, puis ça permet aussi d'avoir justement de colorer ça. Mais oui, il faut se garder cette hygiène d'information-là, cette diète-là.
Ouais, ben faut pas virer fou. Moi, j'ai failli virer fou. En début d'année, j'ai commandé 13 livres. Et je lisais tous les tweets, threads de Doomers, man. Puis les...
Ah, ben...
Nick Bostrom, on dit...
Il y a moyen de se faire peur. Il y a moyen de se faire peur.
Dude, si tu as un profil obsessif, compulsif, tu peux creuser longtemps. Là. Tu peux binger, man, longtemps. Là.
Ah oui.
Puis c'est un profil rêveur aussi, tu peux rêver longtemps, tu sais.
Ben, moi, je suis toujours dans un statut de balance entre les deux, là, de savoir toutes les possibilités qui sont offertes, puis de voir, waouh, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait. C'était étourdissant, puis là, de l'autre côté, ah, ouais, ça aussi, ça peut arriver. Puis ouais. Ça, c'est, tu sais, le Doomsday, je ressemble pas nécessairement à ce que je pense que. La population générale a comme idée du Doomsday, mais
hollywoodien, Terminator-ish.
Ouais, c'est ça.
Tu penses-tu qu'il y a plus de chances que ce soit 1984 ou Brave New World?
Ouf. C'est un optimiste, je vais dire, Brave New World. Mais je pense qu'il y a un argument à faire que Brave New World, c'est le prequel à 1984.
Hey,
puis que c'est à travers l'hédonisme que tu te rends vers le contrôle complet, là.
C'est... Ouais.
Puis, tu sais, en ce moment, Brave New World, il y en a pas mal des éléments communs. Il y en a pas mal du, tu sais...
Oui, man.
Du divertissement instantané, là. Du,
la pilule
du,
facile.
La pilule
facile.
Il y a facile,
plein d'affaires d'autres, là.
C'est facile de juste scotcher à son écran puis entertain me, là.
T'as-tu lu ou entendu parler de Infinite Jest?
Je l'ai pas encore lu.
J'ai essayé de le lire. Fuck that. C'est un esti de Bible. J'ai pas été capable. Mais anyway, j'ai checké un paquet de résumés, un paquet de vidéos là-dessus. Puis là-dedans, il y a le concept de justement une cassette de genre que quand tu le plugs, là, je vais sûrement le massacrer pour les fans de David Foster Wallace. Pardonnez-moi. Je sais pas à quel point il y en a qui écoutent le pod. Whatever. Tu plugs cette cassette-là. Puis une fois que tu consommes ce contenu-là, tu veux rien faire d'autre. T'es genre scotché, comme tu dis, à ton écran. Fait que c'est comme un infinite entertainment, puis le monde en meurt littéralement.
Ah, ouais.
Si je ne m'abuse. Puis tu sais, on en parlait un peu offline avant de commencer le pod, mais Sora, mettons, qui vient de sortir, d'OpenAI, les démos qu'ils ont mis, de leur generative video, je sais pas comment exactement le dire. Quand tu penses 2-3 clics plus loin, t'es comme, calisse, dude, man. Genre, on-demand entertainment, que t'as ton casque à la tête, des, peut-être des améliorations sensorielles, tu dis, amène-moi dans telle place, génère-moi tel univers, puis tout, puis c'est tailored à tes besoins, tes affaires. Ça devient bizarre, là.
On demand, mais tu viens de dire tailored, c'est la demande de qui dans ce cas-là? Parce que avant d'être rendu au génératif, on en a des plateformes qui sont très, très bonnes pour te suggérer exactement ce qui va te garder engagé. Ben, tu sais, les YouTube de ce monde-là, ils ont fait beaucoup d'argent à calculer le nombre de minutes que tu restes connecté sur la plateforme, puis optimiser pour ça.
Ouais, fait que là, on ouvre un pan, genre, c'est-tu vraiment ce que toi tu veux ou ce que t'as appris, que ce que les algos t'ont feedé, puis qu'à ce temps, t'es hooked là-dessus. Mais oui, ben, tu sais, en même temps, mettons qu'on est moins sci-fi dystopien, puis qu'on est plus, mettons, utopien, tu sais, tu vas pouvoir dire, genre, hey, amène-moi dans un environnement serein où je peux, genre, méditer, puis où, genre, je peux converser peut-être avec un philosophe mort, là, mais tu sais, qui peut m'aider. Genre, je sais pas, j'essaie de faire un truc très sain, mettons.
Il y a plusieurs super belles choses là-dessus aussi. Ouais. Puis, je veux dire, je pense que déjà, les Midjourney d'Ali de ce monde, pour l'expression artistique, c'est une discussion que j'ai eue à quelques reprises, mais le point de vue de considérer les AI génératives comme juste un autre outil dans un toolbox artistique ou créatif. Moi, pour suivre tous les stéréotypes de monde de TI et de nerds, je roule une partie de Donjons Dragon. Ben,
ah ouais?
Moi, ma créativité, c'est plus narratif.
Ouais.
Puis j'aime bien ça, faire ça. Mais j'ai jamais eu le talent pour dessiner, j'ai jamais eu le talent pour mettre un visuel aux idées et aux concepts.
Nice.
Ben, les Midjourney de ce monde, ça permet de dire, ben voici. Ouais. Voici une représentation de ce que j'avais en tête parce que j'ai pas le skill artistique pour le faire.
Va falloir que tu m'envoies des photos après.
Ben, ça va faire plaisir.
C'est hot, ça, dude. J'aime vraiment ça. Puis j'ai un pote qui est en publicité aussi. Puis il est fasciné parce qu'en termes de mood boards, en termes de storyboard, pardon, c'est plus ça que je voulais dire. Tu sais, créer un environnement qui est comme un pitch. Tu veux pitcher une nouvelle série, une nouvelle pub, un nouveau film. T'es comme, voici l'univers, ça va être ça. Puis là, t'as des shots. Tu sais, déjà avec les outils qu'on a, on peut créer ces environnements narratifs-là. Puis bon, après ça, il y a des discussions éthiques de les jobs qui vont partir, puis pas, puis tout, puis que j'ai même plus l'énergie pour rentrer là-dedans aujourd'hui. Là. Mais comme...
une grosse conversation pour je sais pas combien de temps il nous reste.
Non, c'est ça. Non, laisse voir ça. Puis, OK, cool. Puis, OK, ben mettons que je suis, mettons, plus pointu, genre, t'aimes-tu mieux Dali? T'aimes-tu mieux Midjourney? T'aimes-tu mieux des itérations de Stable Diffusion? Qu'est-ce que t'aimes mieux?
Midjourney, c'est mon préféré all-around dans ce moment.
Ouais.
Je te dirais pour le clé en main, pour la qualité de... Ouais.
Sur Discord, ça va bien en crise aussi.
Ouais. Stable Diffusion, c'est sûr que quand t'aimes ça, te mettre les mains dedans, il y a plus de capacité de personnalisation.
Puis ton...
De la persistance. Fait que si t'as un côté narratif,
tu veux
te créer des personnages persistants, t'es capable de... Puis ça, ben, ça ramène à des concepts plus généraux d'AI, mais de faire du fine-tuning de modèles pour apprendre puis internaliser certains concepts. Ben, l'identité graphique d'un personnage, c'est un concept que tu peux feeder à.
Exact.
Puis là, le sortir puis le combiner avec l'environnement dans lequel il va être, les poses dans lequel il va être, le style artistique, etc.
Fait que là, parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé rien qui touche à Stable Diffusion. J'ai utilisé Midjourney pendant un bon bout. Puis je googlais tout le temps, justement, consistency across images. Puis là, je voyais des tutoriels semi-hackish de comment tu peux essayer. Puis là, je sais pas si on est rendu où, Midjourney. Mais tout ce que tu dis, c'est de ton expérience, la persistance dans les images design générées, c'est plus facile avec Stable Diffusion?
C'est plus facile avec les modèles que tu peux fine-tuner en ce moment.
Avec les modèles que tu peux fine-tuner. Dans Stable. OK, c'est bon.
La facilité à fine-tuner les modèles, je pense que ça va.
Parce que Midjourney, tu peux pas le fine-tuner, là.
C'est ça.
Tu
as des features qui sont en train d'être développées puis qui sont très, très...
OK.
Qui, je pense, c'est pas encore à côté. D'après moi, ça va se rendre là bientôt. Ouais. D'après moi, cette possibilité-là de faire apprendre, d'avoir ce... Je suis pas sûr sous quel format ils vont le développer. Je suis pas sûr quelle architecture ils vont utiliser pour l'implémenter. Mais d'après moi, c'est quelque chose qui vient assez rapidement.
C'est un team bootstrap, hein, ça, tu savais.
Ouais,
c'est... Ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Ben... Je me rappelle plus combien de millions qu'ils font, là. Pas de financement externe.
Ben non.
Puis leur vélocité d'itération, là, tu sais, j'ai participé une ou deux fois dans des, leur espèce de call-in, là, check-in
ouais.
sur Discord, que la communauté peut aller poser des questions à un des founders ou je sais pas quoi. Puis c'est comme, man, c'est impressionnant comment que ça bouge vite puis que c'est genre grassroots là, comme truc. Là.
Ben, c'est ça qui est le fun du milieu, c'est que je veux dire, t'as des grosses choses que tu peux faire avec comparativement pas tant de ressources que ça.
Ouais.
Fait que c'est des projets comme ça. Je pense que d'avoir des projets de grande envergure qui sont bien encadrés, ils ont vraiment fait leur job comme du monde de bien grandir là-dedans, mais une croissance explosive.
À travers de la controverse sans finir, c'est ben, finir aussi.
C'est ça.
Ouais, c'est impressionnant. C'est... Est-ce qu'il y a quelque chose sur quoi tu as changé d'idée dans les 5 dernières années?
Idéalement, le plus possible. Parce que...
Pas si, trop, mais...
Si je, non, mais si je réponds non à ça, je me...
Ouais,
je
me sens en fonction peu. De ton rôle aussi, c'est sûr que t'as de la nouvelle information beaucoup qui pop, là.
Ben, je te dirais, quotidiennement, je réévalue des réponses que je donne ou que j'ai données par rapport à ce qui peut se faire et les ressources que quelque chose peut prendre.
Fair, ouais.
Parce que le changement de capacité est très, très rapide. Puis de dire, ben... C'est pas parce qu'il y a 6 mois, ma réponse à cette question-là, c'était « Ouais, on pourrait le faire, mais ça va prendre 3 ans à le développer. » Ça veut pas dire que ça tient encore.
Ouais.
Fait que ça, c'est d'essayer de le changer constamment de ce côté-là puis de pas se créer de cadre trop fixe de « Ça, c'est pas possible. » Ça, c'est...
Ma vision du monde doit être fluide comme un peu.
Exactement. Puis okay. Je te dirais, ben avec certaines discussions sur les obligations et sur les risques de... Je pense que j'apprends un petit peu de prudence aussi par rapport à comment on l'utilise.
Moins YOLO cowboy, là.
Ouais, moins cowboy, puis de dire, ben regarde, ce qu'on va suggérer, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus structuré, mais ça va être un modèle propriétaire ou un modèle local pour travailler juste avec tes informations parce que... C'est peut-être pas un requirement légal que t'as, mais ça serait une bonne pratique de se mettre à la bonne place par rapport à ça.
Okay.
Puis, je veux dire, je pense que j'ai la bonne quantité de prudence comme personne, mais je pense que j'en ai jamais eu en excès non plus. Puis là, j'en prends un petit peu plus.
OK, fair. T'as parlé de modèle local, là, je fais juste une mini-parenthèse avant qu'on close, mais j'écoutais un pod qui était comme The Bootstrap Founder ou quelque chose de même. Il parlait du fait que quand tu veux intégrer des fonctions, mettons, de Gen AI dans ton SaaS, comme par exemple de la recommandation ou interroger une fac ou une knowledge base avec un chatbot, whatever, il y a des modèles qui sont rendus tellement petits que, puis qui font genre 90% ou 80% de ce qu'un gros OpenAI ferait, que tu peux les rouler local sur tes propres serveurs ou même des fois sur ta machine direct, puis ça te crée une espèce de redondance, résilience, que tu as moins de platform risk si les autres pètent. Je pourrais le mettre dans le show notes, ça, mais je trouvais ça intéressant, ce côté-là. Je pense que c'est Mistral, le petit modèle.
Ouais,
le plus
ouais,
petit
ouais.
Modèle.
T'en as, mais tu sais, t'en as aussi les Llamas de Facebook. T'en as une gang qui sont. T'as des modèles qui sont déployables avec des ressources limitées. T'en as de plus en plus. Puis ça fait partie de ce que je viens de mentionner. C'est de dire, ben, déployer quelque chose de localement. Il n'y a pas si longtemps, ma réponse, c'était c'est quand même resource intensive. Là. Tu as de l'entraînement, tu as du CI/CD, tu as du. Ah, puis là, ben finalement, le coût de GPU vient de passer de ça à ça. En mode audio, ça paraît pas. Là. Le coût de GPU vient de descendre.
Puis. Allez, subscribe sur YouTube.
C'est ça. Shameless plug. Mais non, c'est ça. C'est de dire, ben ouais, là, c'est devenu de plus en plus accessible. Puis est-ce que ça arrive de même? Puis pas encore.
Ouais.
Mais. C'est le genre de choses où il faut réviser la position que de dire ben de développer quelque chose en de déployer quelque chose en local puis
c'est
de faire tourner quelque chose
idée à cette heure,
ça peut être devenu une bonne idée relativement récemment pour plusieurs.
Exact. Fucking intéressant ça, dude. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça se passe plus utile pour toi et ou ta team?
Ben je mon espoir, c'est que la conversation d'aujourd'hui, ça le fasse déjà dans une mesure.
C'est sûr.
Mais pour les SaaS, c'est sûr que de savoir que c'est pas... Notre offre se termine pas à « on va tout faire pour vous
ouais. ».
Mais c'est de dire aussi, ben, peu importe où est-ce que vous êtes en termes de maturité par rapport à l'AI, en termes d'ambition par rapport à l'AI, il y a probablement quelque chose à faire. Mmh. Des fois, c'est du scoping, des fois, c'est de l'accompagnement, mais c'est de dire le fait qu'il y ait de l'expertise interne déjà, ça exclut pas le fait qu'il y ait du bon travail à faire en collaboration.
Ouais, fair. As-tu des shameless plugs pour finir?
Ben, du côté de Baseline, ça vaut toujours la peine d'aller voir le site web. Une belle refonte qu'on a faite, en fait.
Baseline.Québec?
Exactement. Sur le long. Donc, QEBAC. Puis, ben, c'est une bonne place pour voir ce qu'on fait aussi. Mais, on vit une belle croissance en ce moment. Si vous avez de l'intérêt dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des opportunités, il y a des postes, il y a des... Les choses
qui vous il y a un contact form directement sur, sur le site,
exactement.
Pense. OK. Puis sinon, si le monde sont comme, yo, ça me tente de peut-être aller le faire, ce diagnostic-là, cette première étape-là, ils veulent te parler.
Ben, je veux dire, le Alexandre site de Baseline Dubé-Côté. Est là, mais moi, sur LinkedIn direct, ça va me faire plaisir aussi.
Alexandre Dubé-Côté.
Exactement.
Sur LinkedIn aussi.
Sur LinkedIn.
Super.
Fait que, ouais, c'est ça. C'est une belle façon d'entamer la discussion, de commencer à jaser de ça.
Dude, merci pour ton temps, ton knowledge. J'ai eu du fun, j'ai appris, man, j'apprécie.
Mon plaisir, c'était bien agréable.
Cheers, mon gars. Cheers.